Comment est-il possible de gagner en perspective, analyser les enjeux avec rigueur et influencer le succès de l'organisation? Avant de débuter l'épisode, nous avons une annonce spéciale à vous faire. Maîtriser la pensée stratégique est l'une des compétences les plus en demande au sein des organisations. Et nous voulons aller plus loin que le podcast. Au courant des 5 prochains jours, nous lançons la prévente de notre atelier en ligne « Développer et mettre en pratique sa pensée stratégique ». Cet atelier cohorte vous permettra d'aborder des enjeux stratégiques avec confiance et vous permettra de développer et communiquer des recommandations sur des bases solides. Nous ouvrons 10 places pour une inscription anticipée à notre atelier avec une énorme réduction en échange de vos commentaires durant la phase de finalisation de l'atelier. Notre futur atelier « Développer et mettre en pratique sa pensée stratégique » est disponible pour quelques jours avec une réduction de 50%. Inscrivez-vous dès aujourd'hui au prix réduit de lancement. N'attendez pas, ces 10 places sont disponibles jusqu'au vendredi 26 avril 2024 à 18h. Inscrivez-vous en suivant le lien en description ou visitez-nous au www.inteliaconsulting.com/formation.
Bonjour et bienvenue à l'épisode 69 du podcast Innovation, Agilité et Excellence. Mon nom est Jean-François Nantel et en compagnie d'Éric Lheureux, nous désirons vous offrir réflexions, conseils et perspectives afin de faire face aux perturbations du marché et de développer la croissance profitable de votre organisation. Aujourd'hui, nous avons le privilège et le plaisir de nous entretenir avec Laurent Bibard sur des questions de fond. Pourquoi trouvons-nous que notre monde est plus complexe et ou plus incertain qu'avant? Et quoi faire pour gérer cette perception? Laurent apporte une perspective humaniste, philosophique et j'ajouterais psychologique à ses réflexions sur le management et il me fait très très plaisir de partager avec vous son point de vue singulier sur ces questions. Laurent Bibard est professeur à l'ESSEC dont il a dirigé la plateforme MBA de 2005 à 2010. Il y enseigne la philosophie politique, la sociologie et l'économie. Désormais responsable de la filière management et philosophie, il travaille en particulier sur les dynamiques de vigilance en situation de crise. Il est également directeur académique pour l'ESSEC du Master Eau pour tous, déployé en collaboration avec AgroParisTech. Après son ouvrage intitulé « Complexité et organisation, faire face aux défis de demain », publié en 2018 en collaboration avec Edgar Morin, son dernier livre présente une phénoménologie des sexualités, la modernité et la question du sens, en 2021. Bonjour Laurent, comment vas-tu?
Bonjour Jean-François, ça va très bien, j'espère que toi aussi.
Oui, ça va très bien et c'est un plaisir de t'avoir sur le podcast. On entend beaucoup parler de complexité de nos jours, mais complexité, c'est un mot comme projet, c'est un mot comme management. Tout le monde, entre guillemets, sait ce que ça veut dire, mais en réalité, personne n'est capable de le définir clairement. Comment est-ce que toi, tu définis la complexité?
Ce qui est très intéressant, c'est d'abord, c'est vrai que c'est un mot valise, hein, comme plein d'autres mots.
Ouais.
C'est marrant parce que les mots les plus importants finissent par être complètement vidés de sens. Le plus intéressant est de renvoyer à la notion, à l'étymologie. L'origine étymologique du mot, c'est en latin complexus, et ça renvoie au tissage, au tissu. Et ce qui est de très intéressant, c'est qu'un tissu pour les anciens, c'est la métaphore de la vie humaine collective. Or, la vie humaine a toujours été collective. Et donc, on peut dire, la vie humaine a toujours été un tissage, et donc, elle a toujours été un complexus, donc, elle a toujours été complexe. Et c'est pas plus grave que ça. Je pense que c'est important d'évoquer, c'est pas plus grave que ça, parce qu'à notre époque, quand on parle de complexité, on s'affole, malheureusement, à juste titre, souvent. Mais en même temps, c'est intéressant de se dire, mais on a toujours vécu en complexité.
Et autrement dit, la complexité de rôle, complexité de besoin, complexité de relation, complexité de nos, de tout ce qui fait notre société en réalité. Donc, la complexité est inhérente à la vie collective, comme tu dis,
Oui, de la même façon que notre besoin de simplicité en contrepoint de la complexité. En fait, la vraie complexité n'est pas faite que de la complexité. Elle est faite de la relation entre la nécessité de reconnaître la complexité. Si on ne la reconnaît pas, on se plante. Si on ne la reconnaît pas et qu'on tente de se cabrer contre, on sera victime. Elle est plus forte que nous. Mais si on reconnaît la complexité, elle peut devenir un atout. Mais en même temps que cette reconnaissance nécessaire, il y a l'observation très simple que nous avons besoin aussi de simplicité. Si on n'était que dans la complexité, la vie serait invivable. Alors, on a besoin de simplicité. Le danger de la simplicité, c'est de vouloir se faire croire qu'elle est toute seule, qu'il n'y a pas de complexité. Et dans ce cas-là, on n'est pas dans le besoin normal, légitime, irréductible de simplicité. On tombe dans le simplisme. Et le simplisme, c'est extrêmement dangereux. Extrêmement dangereux.
Oui, ça peut nous amener à toutes sortes de dérives.
Oh oui, et les pires sur le plan politique en particulier.
Ouais, le monde où nous vivons aujourd'hui, est-ce qu'il est forcément plus complexe que celui d'hier et moins que celui de demain, d'après toi?
Je ne suis pas sûr. Il a toujours été complexe, comme on évoquait, puisque l'étymologie, c'est la vie humaine collective et la vie humaine a toujours été collective. Donc le monde a toujours été complexe. Ce qui le complexifie, c'est d'une part nos technologies, parce que l'information et la désinformation circulent à la vitesse de la lumière, mais aussi c'est notre besoin de simplicité. On voudrait de plus en plus tout contrôler. Et c'est loin de rendre les choses aisées. Et nous créons une complexité très délétère à vouloir tout contrôler et simplifier en quelque sorte. Le contrôle, c'est la simplicité. Eh bien, on voudrait tout contrôler et ça crée des effets pervers gigantesques. Il est capital que nous réapprenions et réacceptions de fonctionner en incertitude, en complexité, pour apaiser les choses, les adoucir. Et ce qui est très intéressant, c'est que quand on sait faire ça, la vie est, paradoxalement, beaucoup plus facile à vivre. J'allais dire beaucoup plus simple, mais ne créons pas de malentendus sur les mots. En tout cas, beaucoup plus facile à vivre.
Mais cette perception de complexité-là, est-ce qu'elle est, comme tu dis, elle vient peut-être de cette question technologique, est-ce que ça vient aussi du fait qu'on est plus nombreux? Est-ce que ça vient du fait que nous communiquons sur différents canaux, alors qu'avant, on était limité à deux ou trois ou quatre canaux? Qu'est-ce qui fait que cette perception-là est là?
Moi, j'aime bien tes hypothèses du nombre et de la communication. Mais c'est très intéressant de nuancer. En fait, on communique de moins en moins bien parce qu'on bavarde de plus en plus, de plus en plus fréquemment. On est en connexion permanente. On ne prend pas le recul suffisant pour poser les bonnes questions, pour avoir un regard critique sur l'information, sur les échanges qu'on a avec les autres. On est absorbé par les relations qui, du coup, s'effondrent en simple contact. Ce ne sont plus de véritables relations, ce ne sont plus de véritables rencontres, il n'y a pas d'écoute. Et, et donc, à ce compte-là, on augmente une très mauvaise complexité. Si nous réapprenions à bien nous écouter, j'espère que toi et moi le faisons maintenant, etc., mais si nous réapprenions à bien nous écouter, la vie serait beaucoup, beaucoup, beaucoup plus simple à mener, plus facile, plus simple.
Oui, plus, encore une fois, ce besoin de facilité. Je veux te poser une autre question aussi sur, quand on parle de sémantique ou de vocabulaire, je voudrais parler un peu avec toi de l'acte de décider, de la prise de décision. Les anglophones disent « make a decision », donc il y a un aspect travail là-dedans, et les francophones disent prendre une décision qui est plutôt faire un choix. Qu'est-ce qui se cache derrière cette différence-là, d'après toi?
Alors, je ne saurais pas bien dire s'il y a vraiment une différence de fond, du coup, dans les deux cultures, mais anglo-saxonne et francophone, mais je dirais volontiers que make a decision, ce n'est pas simplement, comme tu l'as évoqué, le travail, c'est aussi la responsabilité de fabriquer une option dans une situation dont on ne sait pas ce qu'elle va devenir. Et si c'était ça, en tout cas, ça me semble capital. C'est-à-dire que l'avenir n'existe pas encore. Il n'est pas là. Et donc, il n'existe pas. Et nous contribuons à le fabriquer par les décisions que nous prenons au présent. Et donc, to make a decision, c'est très responsabilisant. J'y vois, en plus du travail que tu as parfaitement, je trouve, raison d'y voir, la notion de responsabilité. On ne make pas, on ne fait pas n'importe quelle décision, n'importe comment. Tandis que prendre, ça peut être comme si c'était sous la main. Il y a des choix, et parmi des choix déjà présents, on prend des options. Mais en fait, non. Nous fabriquons les choix. Nous fabriquons les options. We make the options. Nous fabriquons les options. Ouais. Et ça, c'est de la responsabilité. Voilà, moi, ce que m'inspire ta question, que je trouve très intéressante.
Comme on parle beaucoup de, justement, décider en complexité, décider en incertitude, décider aussi en ambiguïté. Est-ce que ça aussi, on voit plus d'ambiguïté aujourd'hui qu'avant? Ou est-ce que, encore une fois, c'est une impression que nous avons ou c'est quelque chose qui fait que, comme on a une multiplicité ou une multiplication des sources d'informations, c'est plus difficile de comprendre qui dit quoi et qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est, entre guillemets, peut-être moins vrai ou disons, sans aller fake news, mais ou peut-être un peu déformé. D'où vient cette ambiguïté ou cette perception d'ambiguïté?
Moi, j'opterais spontanément pour ta deuxième option, c'est-à-dire ça n'a pas augmenté. En revanche, comme nous voudrions, nous avons un rêve de perfection, de ouais. transparence totale, de contrôle total, de clarification totale du réel, on est de plus en plus à l'affût de tout ce qui advient. Mais le monde a toujours été complexe, donc il a toujours été émergent. Un monde émergent, c'est un monde où il y a des signes noirs, un monde où il y a des signaux ouais. faibles, un ouais. monde où, qui se signale, il est toujours déjà en route, mais il n'est pas nécessairement d'emblée visible. Et donc, il y a des signaux faibles. Mais il y a toujours eu ça. Alors, en revanche, comme nous les cherchons de plus en plus, et de manière un petit peu excessive, voire obsessionnelle, hein, et du coup, on, partout, on voit des signaux faibles. Donc, on ne les voit plus. Si on ne voit, si on en voit partout, il n'y en a plus. Un vrai signal faible, c'est quelque chose qui se différencie réellement de ce qui émerge, de ce qui apparaît en quelque sorte et de ce qu'on peut voir. Et donc, notre frénésie à vouloir tout voir, elle favorise de l'angoisse, de l'inquiétude dans un monde qui est émergent, qui l'a toujours été, qui l'est peut-être un peu plus qu'avant parce qu'on est en interconnexion supplémentaire, mais oui. c'est pas si sûr que ça. C'est pas si sûr que ça. Nous alimentons largement la complexité que nous trouvons lourde à affronter. Hein. Nous, les humains, on en rajoute volontiers. On est assez compétents pour en rajouter.
Et penses-tu qu'on s'intéresse plus à une dernière question sur ça, parce que j'en profite. On s'y intéresse plus quand on est plus vieux? Ou est-ce que moi, quand j'étais jeune, cette question-là de complexité et d'incertitude, ça ne me préoccupait absolument pas? Donc, est-ce que c'est relié au fait qu'on vieillit aussi, qu'on vit plus longtemps?
Je ne crois pas, Jean-François. Je ne crois pas, ouais. parce qu'il me semble qu'on peut dire qu'il y a une très grande différence entre les générations. Nous, toi et moi, faisons partie d'une génération où tout ceci était moins apparent. On était oui. lors des 30 Glorieuses, on était à un moment où nous n'avons pas connu, je crois, directement de guerre, ou alors par nos parents. Et donc, on a eu une vie assez relativement paisible. Maintenant, oui. maintenant, les générations qui viennent, elles sont plongées dans un monde complexe et l'éprouvent comme tel, je crois. C'est pas tout facile. En revanche, les jeunes n'en parlent pas beaucoup en public. Les jeunes, je crois, ont peur de parler en public à cause du phénomène des réseaux sociaux. Je me permets de le dire en tant que prof, les mm-hmm. mémoires individuelles que je demande aux jeunes sont remarquables, sont des travaux engagés, profonds, avec un vrai souci, etc. Mais individuels. Tandis que lorsqu'il faut parler en public, comme il y a tellement de peur que les autres disent sur les réseaux sociaux « t'as vu comme machin, il est nul », où elle est nulle, eh ben, on n'ose pas, de moins en moins. Il y a de moins en moins de paroles publiques exprimées en présentiel. Alors que la parole privée, personnelle, exprimée de manière anonyme, pour le pire sur les réseaux sociaux et pour le meilleur dans les copies qui rendent, que moi, en tout cas, que je reçois comme prof, là, ça marche. Là, ça marche.
Laurent, parlons maintenant un peu d'incertitude. Même question que pour la complexité, est-ce qu'elle est vraiment plus grande qu'avant ou au contraire, est-ce une prise de conscience qu'il y a de plus en plus de choses dont nous sommes ignorants ou, comme tu le dis, que nous ne contrôlons pas?
En fait, d'abord, un point préalable, et c'est important, l'incertitude est une des caractéristiques décisives de la complexité. Oui. Ça n'est pas le cas dans le contexte anglo-saxon où on parle de monde, par exemple, VUCA, et la notion d'incertitude est à côté de celle de la complexité. Dans le contexte, on pourrait dire, européen, l'incertitude fait partie de la complexité. Et du coup, alors, maintenant pour répondre, en fait, il y a toujours eu de l'incertitude, il y a toujours eu de la complexité. L'un des problèmes qui se pose actuellement, c'est notre rapport à l'incertitude et à la complexité, c'est qu'on aimerait bien, pour plein de raisons, que tout puisse être mis sous contrôle. Ouais. Et c'est quelque chose qui nous fait aborder l'incertitude et la complexité comme exclusivement des problèmes. Alors que l'incertitude, si elle représente ce qu'on ne sait pas, elle représente tout autant une possibilité de chance qu'une possibilité de problème. Ouais. Et si on n'est pas ouvert à l'imprévu, ben on ne pourra jamais accueillir de chance. Donc, ouais. On doit réapprendre à accueillir l'incertitude et la complexité. Par ailleurs, le mot de complexité renvoie au fait d'une vie commune. Complexus en latin veut dire le tissu. Le tissu, c'est la vie collective. La vie humaine a toujours été collective, donc on peut déduire la vie humaine a toujours été complexe. Et on s'en est toujours sorti. Alors, évidemment, il y a des guerres, des tragédies, tout ce qu'on veut, mais en fait, il y a intensification de la complexité et de l'incertitude à proportion de nos attentes de mise sous contrôle qui simplifierait les choses. Et ce n'est pas le contrôle lui-même qui pose problème, c'est que quand on croit que le contrôle peut être exclusif, ce n'est pas possible et ce n'est pas souhaitable. Le contrôle serait-il total qu'il n'y aurait plus même d'humanité. Et donc, ce qui est en jeu dans le rapport à l'incertitude et la complexité, ce n'est pas l'incertitude elle-même et la complexité, c'est ce que nous en... c'est notre attente qu'il n'y en ait plus. Et ça, c'est une énorme erreur.
Et tu dis que les anglo-saxons, on parle de VUCA ou VICA en français, donc ce serait une erreur que de le traduire en français. Mais pourquoi est-ce que les anglo-saxons auraient séparé incertitude et complexité, d'après toi? Est-ce qu'il y a...
Parce que le traitement de la complexité, Edgar Morin le montre assez bien dans un article qu'il a intitulé de manière ironique « Complexité restreinte et complexité générale ». La complexité au sens anglo-saxon, qui est beaucoup travaillée à Santa Fe, aux États-Unis, elle est la complexité des systèmes. Mmh. Donc les boucles récursives, le fait que c'est la cybernétique en quelque sorte. On pourrait dire c'est une complexité objective. Alors que la complexité au sens où l'aborde Edgar Morin par excellence, elle recèle en elle notre rapport à la complexité, y compris. Des systèmes, ça veut dire que ça implique l'humain au sens fort. Or, l'humain au sens fort, c'est de l'incertitude. Et donc, d'où le fait qu'il y a un glissement entre la notion anglo-saxonne de complexité, qui ne concerne pas les humains directement, mais les complexités des systèmes. En gros, l'adossement de la réflexion de la complexité aux États-Unis et surtout du côté des sciences dites dures. Alors que du côté de la complexité au sens, disons, européen du terme, elle ajoute les sciences que Bruno Latour aime bien appeler souples. Voilà.
Et moi qui disais que je pense qu'on est arrivé à des systèmes d'information tellement complexes en organisation aujourd'hui que ça devient impossible pour une seule personne de maîtriser un peu tous les aspects ou de connaître tous les aspects, donc comme tu dis, de contrôler tous ces aspects-là. Donc, on doit apprendre à vivre avec ça. Autrement dit, c'est pas quand est-ce qu'il y a quelque chose qui va planter, c'est qu'est-ce qu'on va faire ou quelle est la résilience du système qui est intéressant.
Pardon, une exception, ça a été qu'on a cru pendant un certain temps que c'était plus comme ça, mais ça a toujours été comme ça. Le monde a toujours été... Il faut qu'on réapprenne, en fait, à le faire.
Oui, dans ma vie professionnelle, je n'avais jamais mesuré ça, jusqu'à quel point on l'avait, entre guillemets, sous-estimé ou ignoré ou cherché à contrôler. Et c'est cette perte de contrôle qui nous amène à cette prise de conscience. Concrètement, je m'appelle Decathlon. Je prends l'exemple de Decathlon parce que c'est une très belle entreprise française et qui fait une très, très belle percée au Canada avec 7 ou 8 ou 9 magasins. Il y en a 2 autres qui vont s'ouvrir dans l'Ouest canadien. L'implantation au Canada et en Ontario, au Québec et en Ontario, pardon, c'est déjà bien fait. Aux États-Unis, c'est un peu plus compliqué. Qu'est-ce que je fais avec cette incertitude sur l'inflation, la hausse des taux d'intérêt, un éventuel retour de Trump ou de son fils ou de sa fille ou de son gendre au pouvoir, ou simplement les risques sur la transmission légitime des pouvoirs politiques. Je poursuis mon expansion, je ralentis ou au contraire, est-ce que cette question-là est absolument pas pertinente?
Moi, je crois qu'il faut poser la question un peu autrement vu le contexte où nous sommes. C'est ce qu'il y a de très pertinent dans la question que tu poses, c'est que les entreprises, désormais, ne peuvent plus faire comme si la vie politique n'existait pas. Et on parle d'ailleurs non seulement de responsabilité sociale des entreprises, mais de responsabilité politique au sens noble, au sens fort. Alors, les entreprises ne sont pourtant pas des États et des entités à vocation publique, mais elles ne peuvent pas faire comme si elles n'étaient destinées qu'à faire du profit. Il faut se souvenir que l'ère des 30 années qui ont suivi l'effondrement du mur de Berlin ont été marquées par un ultralibéralisme dans lequel nous sommes encore maintenant.
Oui.
Et adossé à l'affirmation de l'économiste Milton Friedman, comme quoi la seule responsabilité sociale du business est d'augmenter son profit. Cette affirmation a eu des effets délétères gigantesques. Parce que, en gros, on augmente le profit par tout moyen, et quelle que soit l'entreprise. On peut vendre, comme Decathlon, des produits pour tel secteur, et on peut aussi vendre de la pornographie, des armes, de la drogue, du moment qu'on augmente le profit. C'est-à-dire que l'affirmation, elle n'a aucun sens. Donc maintenant, on est en train de découvrir qu'il y a interpénétration des secteurs publics et privés de manière beaucoup plus fondamentale que jamais, et que du coup, se posent de nouvelles questions pour les entreprises. Donc, ce n'est pas seulement la stratégie de Decathlon pour grandir ou pour assurer sa stabilité et son développement qui est en question, c'est comment Decathlon pense le nouveau rôle des entreprises dans le contexte d'une transition écologique indispensable.
Je pense que dans un autre podcast, on parlera justement de ces questions-là quand on parle d'expansion dans des pays, entre guillemets, dits totalitaires, qu'on parle de Chine, Russie,
en plus,
ou d'autres Arabie Saoudite. Ce que tu nous dis, ça a des implications extraordinairement intéressantes à ce niveau-là.
Les questions stratégiques ne peuvent plus être adossées seulement à des intentions économiques de croissance et de profit. Elles sont irréductiblement adossées à des questions de sens, d'inscription dans la vie collective, et de la question de savoir à quoi ça sert ce que l'on fait, dans quel contexte, avec qui et jusqu'où. Est-ce qu'on est tous durables dans le monde qui est en train d'évoluer, comme on sait, avec la crise du climat? Donc, il y a des questions de fond qu'il faut poser peut-être autrement désormais pour les entreprises.
Oui, au Canada, aux États-Unis, quand j'y étais, on parlait beaucoup de citoyenneté d'entreprise ou corporate citizenship. Donc, être des bons citoyens dans cet écosystème au sens large du terme, c'est des choses que je vais, en t'écoutant, que je vais revoir sous un autre angle.
Ça revient à ça.
Une autre question sur tes vidéos. Dans quelques-uns de tes vidéos, tu parles de zones de confort et de leur utilité, mais aussi de ne pas systématiquement y recourir. Quel conseil est-ce que tu donnerais à un ou une accro à ces zones de confort?
Alors d'abord, il faut noter qu'on en a tous besoin. Hein. Les zones de confort, elles sont fabriquées par ce que nous savons déjà faire. Notre confort, c'est ce que nous connaissons déjà. Et on a tous des choses que nous connaissons déjà. Je prends un exemple très simple. Hein. Moi, je suis arrivé ce soir pour l'enregistrement de notre rencontre. Heureusement que je présupposais que l'ordinateur est un ordinateur. Mm-hmm. Ce que je veux dire, c'est que la folie totale, c'est-à-dire l'absence totale de zone de confort, c'est de la démence.
Ouais.
On ne sait plus qu'est-ce qui est quoi. On ne sait plus quel jour on est. On ne sait plus où on est. Malheureusement, c'est des maladies comme Alzheimer. Mm-hmm. Et donc, ça, c'est de l'inconfort total. Et donc, on a tous besoin de zones de confort. Donc, il ne faut surtout pas se juger d'en avoir besoin. Mais en même temps, et c'est là que j'en viens à ta question, c'est que si on s'y complaît et qu'on ne fait que répéter ce qu'on sait déjà faire, tôt ou tard, on devient complètement contre-productif, voire dangereux pour soi-même et pour les autres.
Ouais.
Et donc, il est capital de cultiver une capacité en permanence de questionner ce qui nous est évident. Il est capital de rester ouvert à la possibilité que ce qu'on a fait jusque-là, qui pouvait être bien, devienne inadéquat, inadapté, et qu'il faille apprendre autre chose. Donc, une zone de confort, c'est à la fois un sol indispensable, mais un sol sur lequel on prend appui pour le quitter, pour aller vers autre chose quand c'est nécessaire. Et donc, la recommandation, c'est de l'humilité, c'est de toujours se dire, il peut toujours se passer quelque chose qui m'oblige, par bon sens, par nécessité, à changer de regard et à faire les choses autrement ou à faire d'autres choses que ce que je faisais jusqu'ici. Ça peut toujours arriver.
Et c'est ce qui nous permet aussi, en cas d'échec, de revenir sur quelque chose, sur un socle, comme tu dis, qui est stable, pour ensuite se reprojeter dans une autre direction ou sur de nouvelles prémices dans une nouvelle direction. Donc, autrement dit, la zone de confort, elle est fondamentale pour nous permettre à innover ou nous permettre à changer ou nous permettre à apprendre finalement.
Absolument d'accord. Je pense qu'il faut l'interpréter comme un point d'appui. Mais un point d'appui, c'est justement fait aussi pour qu'on le quitte. Donc oui, c'est un point d'appui et puis parfois, il faut le quitter.
Ça m'amène à cette question philosophie et management. Moi qui ai adoré mes cours de philosophie, mais qui ai choisi le management pour gagner ma vie. Donc les deux ne seraient pas si distincts finalement.
Ah ben, c'est inséparable. Moi, je comprends mieux ma décision d'avoir fait les deux depuis toujours. C'est que je pense qu'on peut dire de manière très, très simple, la philosophie, c'est l'art de poser les questions. Le management, c'est l'art d'apporter les réponses. Eh ben, il n'y a pas de questions sans réponse et réciproquement. Et il n'y a pas besoin d'avoir un cursus académique en management et en philo pour faire les deux. Hein. On a tous l'intelligence suffisante pour poser les bonnes questions quand il faut. Parfois, c'est de la paresse qui fait qu'on ne le fait pas. Mais pour poser les bonnes questions quand il faut, et on sait tous apporter des tas de réponses. Le problème actuellement, c'est qu'on est que dans les réponses. Hein. On a tellement l'angoisse des questions que je ne sais pas si tu as remarqué, c'est intéressant de remarquer que le monde de publicitaire est saturé de solutions proposées. On vend des solutions. On ne sait même pas à quel problème elles sont relatives. On vend des solutions, tu ne sais même pas de quel problème il s'agit. C'est catastrophique. Il faut expliciter le sens de la question.
Oui, c'était la discussion qu'on avait avec Matthew Cohen au sujet de la blockchain et des crypto-monnaies. Est-ce que c'est vraiment une solution qui cherche un problème ou est-ce qu'il y a vraiment une valeur?
Voilà. Et malheureusement, on sait tellement bien en management qu'on a des solutions et on cherche le problème. Ce qu'il faut, c'est qu'on réapprenne à problématiser de manière pertinente le réel. Nous gagnerions beaucoup plus de temps, beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et beaucoup d'avenir.
Ouais. Et je fais référence à Taïeb Afsi qui, dans une conférence à Montréal où j'étais il y a 2 ans, avant la COVID, qui nous disait, qui posait la question de manière un peu provocative, est-ce que les MBA, les diplômés en école de commerce, peuvent être une force pour le bien? Et qui nous disait qu'on a besoin des généralistes pour contrer les excès des spécialistes. Et pendant la crise de la COVID, je voyais bien l'importance du politique pour justement faire travailler ensemble toutes ces différentes spécialités ou toutes ces questions-là. Est-ce qu'on verrait le philosophe aussi comme un autre spécialiste ou comme un autre généraliste?
Ah non, surtout pas comme un spécialiste. Moi, ce que tu dis me fait penser qu'un jour, un étudiant m'a demandé « Mais ça sert à quoi la philosophie ?» Et j'ai répondu « Ça sert à rien. » Et il y a un étudiant qui avait fait de la philo dans une des écoles les plus importantes en France, l'École normale supérieure. Ouais. Il était furieux de m'entendre dire que ça servait à rien. Et du coup, j'ai précisé, j'ai dit « Écoutez, si la philosophie doit servir à quelque chose, elle n'est plus la philosophie. Elle devient un instrument technique au service de quelque chose de précis. Et donc, ce n'est pas de la philo. La philosophie, elle ne sert à rien, donc elle sert tout. Elle sert la capacité à poser les bonnes questions. Et c'est immense. Et donc, la philosophie est tout sauf une spécialité. La philosophie, c'est du bon sens appliqué au réel pour des questions ajustées de manière à ce qu'on pose les bons problèmes. Et ça, on en a tous besoin. On a besoin de sortir, en effet, des spécialisations. Là, on est bien d'accord. J'ajouterais, comme tu évoquais les exec MBA, moi je souhaite témoigner que depuis une dizaine d'années, il y a une très heureuse humilité croissante dans les populations qui font les execs, etc. Il y a eu beaucoup d'arrogance pendant de longues décennies. Mm-hmm. Et là, d'expérience, moi je constate qu'il y a des gens de plus en plus ouverts. Et surtout, malheureusement, la crise du Covid en a rajouté. Il y a une humilité, une écoute, un désir de sens et un désir de contribuer au sens très significativement croissant. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. On est peut-être sur une très, très bonne voie. Il y a un éveil des consciences, il me semble.
Oui, je partage un peu aussi ton optimisme. Un dernier
conseil.
C'est
pas un optimisme, c'est un constat pour l'instant.
Oui. mais c'est un constat positif. Donc, on va le prendre comme ça.
Ah, tout à fait. Absolument.
On va dire que le verre est à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Conseil aux jeunes cadres qui nous écoutent, Laurent?
Réapprendre à entendre. Qu'on réapprenne à écouter, qu'on réapprenne à tendre l'oreille aux autres et à soi-même. Qu'on ne tienne pas pour acquis ni les autres ni soi-même. Rien n'est jamais acquis, dit le poète Louis Aragon. Hein. Rien n'est jamais acquis à l'homme, ni sa force, ni sa faiblesse. Ne soyons donc pas arrogants et ne soyons donc pas trop humbles. Nous ne savons jamais de quoi nous sommes capables. Parfois, nous sommes beaucoup plus capables que nous croyons, et les autres aussi. Et donc, l'humilité et la confiance, l'humilité et la confiance ensemble sont capitales. Et en soulignant que nous communiquons très très mal, nous les humains, parce que nous croyons nous comprendre, et ce n'est pas vrai, le monde, comme l'a très, très bien vu malheureusement Albert Camus, est saturé de malentendus. Humilité, confiance et écoute pour une communication clarifiée, c'est des qualités indispensables pour avancer et pour faire avancer autour de soi.
Et une dernière question, un conseil pour le dirigeant ou la dirigeante qui fait face à cette complexité au quotidien?
La complexité, en fait, on s'aperçoit qu'elle augmente si on veut tout simplifier à outrance et qu'on sombre dans le simplisme. Mmh. Et en revanche, la complexité est un atout si on sait l'écouter. Or, l'écouter, c'est aussi, comment dire, réapprendre à tout le monde à prendre la parole. Le conseil pour les dirigeants, c'est que surtout, ils ne présupposent pas que leurs équipes ne sont pas compétentes. Les équipes sont beaucoup plus compétentes que ce qu'on croit d'habitude. Ouais. Pendant le Covid, moi, j'ai eu un nombre de témoignages extraordinaires de gens éberlués de l'efficacité, de la résilience, ouais, de la capacité de transformation de leurs équipes. Et donc, ouais, il est capital de réapprendre à passer la parole aux gens, c'est-à-dire de faire de l'empowerment en entendant les équipes dans une organisation.
Ouais, je suis tout à fait d'accord et mine de rien, c'est drôle, c'est un des conseils que je donnais aux dirigeants chez mon client récemment.
Ah oui, c'est essentiel.
Oui, et je suis tout à fait d'accord avec toi. Je te remercie beaucoup, Laurent, de t'être prêté au jeu des questions-réponses sur notre podcast. Je trouve ta perspective et ta façon de voir ces questions-là qui nous préoccupent beaucoup au quotidien. On a toujours cette impression que ça va de plus en plus vite et c'est de plus en plus complexe. Ça nous permet d'y voir un petit peu plus clair et comme tu dis, de ne pas être trop humble, mais pas être trop arrogant non plus. Trouver le fameux in medias stat virtu, mon latin est très mauvais, qu'on va réétudier. Je te remercie infiniment.
En tout cas, je partage complètement. Merci à toi de ta confiance pour le coup. Et puis, à bientôt, Jean-François. Merci beaucoup.
Merci, Laurent.
J'espère que cet entretien vous a plu. Pour ma part, je suis retourné à mon dictionnaire latin-français pour explorer le mot « complexus ». Pour ceux qui ont écouté l'épisode 62 avec Arnaud Tonnelly, nous confirmons donc que le monde VUCA ou VUCA a toujours été ainsi et que l'incertitude fait partie inhérente de la complexité et que cette préoccupation pour l'incertitude se trouve directement corrélée avec notre besoin de contrôle. Par le fait même, Laurent nous invite à sortir de notre zone de confort, ce que je peux traduire par, de temps en temps, faire le contraire de ce que l'on aurait fait naturellement ou par habitude. J'ai bien dit le contraire, et de temps en temps. Je vous invite à visiter notre site internet pour télécharger l'épisode et pour lire les notes au www.inteliaconsulting.com/épisode69. Nous vous invitons aussi à nous suivre sur votre plateforme de balado-diffusion préférée. Et finalement, je vous invite à vous abonner à notre podcast sur notre site internet afin de rester au fait de nos communications et dernières mises à jour. Pour ceux qui ont apprécié l'entrevue, Laurent Bibard a une chaîne YouTube qui s'intitule « Les décryptages de la philo avec Laurent Bibard » et vous retrouverez le lien complet de cette chaîne sur les notes de l'épisode à la section « Ressources ». Merci et à très bientôt.